Le Mag du Tarn sur le 94.7, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce magazine entièrement consacré à la 44e édition du Festival Musique sur Ciel. Un festival qui a démarré vendredi soir et qui se poursuit jusqu'à jeudi minuit. En ce moment même, sur la place Charles Portal à Cordes, le deuxième rendez-vous quotidien impromptu a lieu autour, je le crois, d'un violon alto vu qu'il s'intitule Altissimo. À 17h30 aujourd'hui à l'église Saint-Michel, le flûtiste Georgia Brown se produira durant une bonne heure pour le concert découverte, alors que mes invités en studio sont trois des cinq protagonistes du concert de 20h30 à l'église Saint-Michel. Monsieur Philippe Herson, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes un compositeur français, d'ailleurs oui. En résidence cette année à Cordes pour le Festival Musique sur Ciel, on en parlera. Avec vous, le pianiste du soir, Romain Deschamps. Bonjour Romain.
Bonjour.
Donc un habitué du festival par contre, et juste à côté de Romain, c'est Pierre Fouchneret. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc violoniste qui sera au violon ce soir. Vous serez accompagné par Lise Berthaud au violon alto et Christophe Morin au violoncelle. Au programme ce soir, du Bartok, des œuvres de Monsieur Hersant et puis Brahms. C'est ça le programme du soir. Donc Bartok, moi je l'ai découvert l'an dernier et j'aime bien. Philippe Hersant, le seul compositeur français encore en vie.
Le fond. pas le seul.
Non. Il y en a d'autres.
Ce soir, non, il y aura que moi.
Ah ouais. Ouais, ce soir, oui. Mais dans la vie de tous les jours, il y a deux compositeurs français.
Il y en a quelques-uns, mais on n'est pas si nombreux que ça, mais quand même.
On en entend très peu parler, quoi, des autres. Il faut reconnaître que l'on parle peu ou on entend peu de musique classique contemporaine, qu'on a l'impression qu'ils sont tous morts.
C'est sûr. Bon, enfin, Cordes fait des efforts, parce qu'il y a, c'est la quatrième fois que je viens à Cordes, et puis je crois qu'il y a souvent des compositeurs invités.
Mmh. Voilà. Vous y étiez en 2002 déjà en résidence.
Oui.
En 2002, vous aviez commencé à composer des haïkus.
Oui, c'est ça.
Des poèmes musicaux.
Voilà.
Vous pouvez nous en dire quelques mots.
Ce sont des pièces inspirées par ces haïkus, ces petits poèmes japonais qui disent beaucoup de choses en très peu de mots et qui sont très évocateurs. Alors voilà, ça m'a évoqué la musique. Donc j'en ai écrit 4 ou 5 pour Cordes, et puis le cycle a grossi, c'est arrivé jusqu'à 24. Et hier, Mara Dobrescu en a joué plusieurs, elle en a joué bien les deux tiers.
Oui, voilà. Parce que donc en 2002, vous aviez commencé cette écriture. Cette année, vous êtes revenu en résidence invité par le festival, qui vous a repassé une commande pour continuer la suite.
Voilà, cette fois pour piano à quatre mains. Mais un peu le même principe, inspiré par des poésies japonaises.
La poésie n'est jamais loin chez vous. Poésie, la littérature, écrire
en musique. Oui, exact. Je mets les mots en musique. Bon, j'ai écrit pas mal surtout des œuvres pour chœur. Et soit inspiré, là c'était des pièces, les textes sont pas lus, mais c'est vraiment la poésie qui a inspiré toutes ces musiques.
Et en 13 ans, est-ce que vous avez senti une différence dans ce que vous aviez composé en 2002 et ce que vous faites maintenant? Plus d'énergie, non, moins, plus sombre.
Pas vraiment.
Ouais.
Non, c'est un cycle qui s'est. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à le terminer quand même, parce que 7-8 ans à peu près. Mais non, je me suis retrouvé tout à fait dans l'ambiance du départ. Parce qu'Yves Petit-Devoise m'avait aussi commandé des pièces pour piano à quatre mains. Ça, c'était en 2006, pour rendre hommage au grand compositeur Henri Dutilleux, qui est mort il y a un an et quelques. Et voilà, j'ai terminé le cycle en 14, j'ai mis 8 ans. J'ai pas fait que ça, non plus.
Ah, je suppose, parce que vous composez quand même pas mal, quoi.
Oui, pas mal. Oui.
Vous savez à peu près. Oui.
C'est même assez intensif en ce moment.
Ah ouais. Beaucoup de commandes ou par
beaucoup
inspiration?
Beaucoup de commandes, un peu les deux.
Oui. Mais comment ça se passe pour mettre des poèmes en musique? Est-ce que c'est la musicalité du poème quand vous le lisez qui vous inspire, ou alors c'est en lisant vous vous dites ça me fait penser à telle note? Comment ça se passe pour mettre des textes en musique?
C'est souvent par association d'idées en fait. Je sais pas, un mot me fait penser à. Il y a beaucoup de citations ou de références à des musiques du passé. Alors, toutes sortes de musiques. Il y a des hymnes orthodoxes, du Claude Debussy, et souvent c'est le mot, un mot dans le poème qui me fait penser à des souvenirs musicaux comme ça. Donc c'est une œuvre qui est très remplie de souvenirs musicaux. Bon, et celle qu'on va entendre ce soir aussi d'ailleurs.
Tiens, on va écouter un extrait de ce qu'on va écouter ce soir. Donc c'est une variation sur une œuvre qui avait été composée par Marais,
j'ai bien compris.
Donc Sainte-Geneviève, je vais retrouver le nom.
La sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont. Enfin aujourd'hui on dirait plutôt le carillon de Sainte-Geneviève-du-Mont.
Bon, on va écouter un extrait dans le mag du Tarn. Et oui, c'est CFM Classique en ce dimanche midi. On écoute un extrait de trio, violon, violoncelle et piano composé par Philippe Hersant. Donc il s'agit de la pièce qui va être proposée ce soir à 20h30 à l'église Saint-Michel et qui sera jouée par un quatuor cette fois.
Par un trio, c'est-à-dire Nils Bertone jouera que dans le Brahms.
Ok, très bien. Donc ce sera le trio aussi ce soir. Que pouvez-vous nous dire de ce type, parce que si j'ai bien compris, la sonnerie de Sainte-Geneviève a une certaine particularité au niveau des lignes de basse notamment.
Oui, c'est-à-dire que Marin Marais, qui vivait au début du 18e, habitait près d'une église, donc l'église Sainte-Geneviève du Mont, qui était là où se trouve le Panthéon maintenant à Paris. Mm-hmm. Et il y avait un carillon de trois notes très obsédant, qui sans doute le réveillait régulièrement. Alors il a écrit un morceau sur les trois notes de ce carillon qui sont jouées à la basse, tout du long, pendant 8 minutes. C'est un peu un boléro de Ravel avant la lettre. Alors, c'est très obsédant. Et c'est un morceau formidable. Un morceau vraiment extraordinaire, très, très prenant. Et qu'on entend dans tous les matins du monde, là, le film. Je crois qu'on l'entend à la fin, si mes souvenirs sont bons. Et bon, c'est un morceau, quand je l'avais découvert, qui m'avait vraiment, vraiment fasciné. Alors, ça m'est revenu quand j'ai écrit ce trio. J'ai repensé à l'œuvre de Marin Marais, puis je me dis, je vais utiliser les mêmes notes du carillon, mais de façon beaucoup plus variée, plus amplifiée. Parce que Marin Marais, ça reste toujours dans le même rythme, dans le même, même tempo. Et que moi, ça va du très rapide au très lent. J'ai un peu fait éclater ce carillon de Marin Marais.
C'est un peu un tube baroque.
Exactement. Ouais, ouais. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il est écrit pour les trois mêmes instruments, mais de l'époque baroque. C'est-à-dire qu'il y a des cordes aiguës, le violon, qui lui n'a pas changé. La viole de gambe qui était l'instrument grave des instruments à cordes, maintenant c'est le violoncelle. Mm-hmm. Et puis il y avait un clavecin et là ça sera un piano.
Un piano, ouais.
Mais c'est un peu la même formation en trio comme ça.
Et pour déployer les variations de plus en plus folles de ce morceau, violon ce soir, Pierre Fouchneret. Pierre, est-ce que interpréter l'œuvre, surtout d'un compositeur contemporain vivant et qui est dans le public, est-ce que c'est plus difficile ou c'est plus stressant ou c'est plus facile parce qu'on peut avoir les conseils ?
Non, enfin, c'est une grande chance déjà de pouvoir converser avec le compositeur parce que quand on joue de la musique de compositeurs qui sont passés, on a finalement beaucoup de questions à leur poser qu'on peut pas leur poser évidemment. Mmh. Donc là, si on a quelque chose à dire, en tout cas une interrogation, on peut en parler. Après, je crois qu'un musicien aborde finalement les musiques à peu près de la même manière, qu'elles soient contemporaines ou anciennes, c'est-à-dire qu'on a toujours affaire à un texte. Mm-hmm. Nous, on est finalement les passeurs entre ce qu'on voit décrit et ce que va écouter le public. Donc on se base par rapport à ça. Donc il faut toujours aborder la musique comme si on l'a créée pour la première fois, que ce soit une musique contemporaine ou que ce soit du Bach. Mm-hmm. Je veux dire, finalement, on essaye d'aborder la musique à chaque fois de la même manière. Oui, c'est-à-dire avec une... Voilà, comme si... Enfin, finalement, pour nous, toute musique est contemporaine pour un interprète. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence. Voilà, je suis pas né en ayant la science infuse de Bach. Et voilà, donc je veux dire, finalement, chaque chose est... Voilà.
Mais, par exemple, sur cette œuvre-là, les variations de la sonnerie de Sainte-Geneviève du Monde de Marais, tu es un peu le Jimi Hendrix, on va dire, parce que c'est, si j'ai compris, c'est le violon quand même qui va dans des variations... qui porte un peu la mélodie au final, non ? Je me trompe ?
Oui, il y a quelques passages comme ça, mais Jimi Hendrix serait plutôt le violoncelle. Oui,
c'est bien réparti. Ouais, bien réparti. Ouais. Le piano a beaucoup de travail aussi.
Ok, donc ils ont tous du boulot, tous les trois. Mais du coup, quelle est la marge de liberté que vous avez ? Parce que effectivement, vous jouez à partir d'une partition, mais après, il y a une intensité à transmettre, la profondeur qu'a voulu mettre le compositeur dans ces notes.
Bah, c'est comme dans toutes les musiques, la marge de liberté est à la fois très grande et à la fois très réduite, c'est-à-dire que y a tout un ensemble de choses qu'il faut respecter, les nuances, le rythme, les notes. Mm-hmm. Voilà, on n'a pas de liberté avec ça. Par contre, tout ce qui va se passer un petit peu entre tout ça, c'est quand même l'affaire de l'interprète. Ouais. Donc ce qu'on va pouvoir mettre derrière, en fait, c'est ça qui est derrière ce qui est marqué, c'est ça qui nous appartient. Par essence, en fait, j'ai envie de dire, même pas par volonté de faire quelque chose, mais mm-hmm. parce que chaque interprète est différent et qu'il va apporter quelque chose sans même le vouloir.
Ce soir, vous jouerez également du Bartok et du Brahms. Johannes Brahms, qui me semble, tient beaucoup à cœur à Robin Deschamps. Je crois que tu aimes bien jouer Brahms.
Ah bon, moi j'adore, mais je pense que c'est un peu tous les musiciens adorent jouer Brahms.
Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Il y a une phrase que j'aime bien que tu dis, Pierre, souvent, c'est que avec Brahms on se sent à la maison. On est bien, en fait. C'est vraiment très agréable parce que c'est déjà très bien écrit. Bon, alors pour les cordes, je sais pas si... Oui, c'est bien écrit.
Oui.
En tout cas pour le piano c'est très bien écrit. Puis on se sent à l'aise. C'est généreux comme musique. C'est plein de couleurs. Donc voilà, en fait, je pense que tous les musiciens aiment jouer Brahms.
Ouais.
Je pense.
Du coup, dans le répertoire de ce soir, donc que ce soit Bartok, Brahms et les œuvres de Philippe Hersant, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer l'équilibre qu'il y a ou les différences qu'il y a entre les différentes chansons que vous allez jouer ce soir, Philippe, peut-être ?
Non, c'est pas.
Si il faut décrire Bartok, par exemple.
Bartok, oui, c'est je pense que c'est de loin la musique la plus dissonante, la plus comment dire ça. C'est celle qui résonnera le plus moderne, entre guillemets, je pense. Mmh. Plus que mon œuvre qui pourtant est écrite bien longtemps après, mais dans laquelle il y a une référence à une musique du XVIIe siècle. Donc voilà. Tandis que la sonate de Bartok, c'est une œuvre rythmique très énergique, très... Enfin, moi, c'est une œuvre que je trouve extraordinaire, mais qui est... voilà, tout un monde sonore quand même très très neuf, très 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 nouveau. Mm-hmm. Donc moi, c'est une œuvre contemporaine mais qui se réfère ouvertement au passé, avec même des citations de Marin Marais qui datent de 1705.
Oui.
Et puis Brahms, c'est une grande œuvre romantique, post-romantique. Donc sont trois univers vraiment très très différents. C'est ce qui fait, je pense, l'intérêt de ce programme. C'est
donc complètement éclectique au final.
Ah, complètement éclectique, ouais. Oui, absolument.
Et vous, en tant que compositeur, vous vous sentez proche de l'un ou l'autre ou de d'autres compositeurs?
Moi, j'adore Bartok. Oui. J'adore Bartok. Oui, ça, c'est, il y a souvent des influences de Bartok dans ma musique. Pas particulièrement dans ce trio, mais c'est, mais il y a l'ombre de Brahms aussi, hein, je pense un peu dans mon trio, ne serait-ce que par la formation instrumentale.
Oui.
Parce que trio, piano, violon, violoncelle, en fait, c'était très en vogue à l'époque romantique. Il y a des grands trios de Schubert, des grands trios de Brahms. Donc, fatalement, on se retrouve un petit peu dans les pas de nos devanciers célèbres, de nos collègues du siècle passé.
Bon, on va poursuivre en musique avec, pour moi, l'un des plus grands. Hein. Bon, c'est très facile, il est très connu, c'est Ludwig van Beethoven. Et d'ailleurs, je crois que tous les deux, Romain Descharmes et Pierre, vous travaillez sur... quelque chose par rapport à ça. C'est pour bientôt, là, ce projet?
Oui,
on les enregistre. On les joue beaucoup, là.
Ouais.
Depuis 2-3 ans.
Ouais. Et elles vont sortir au mois de février-mars, hein, quelque chose comme ça.
Voilà. Les sonates de Beethoven.
L'intégrale.
Ouais. Bon, on va en écouter. D'ailleurs, c'est vous qui jouez sur le titre que l'on va écouter tout de suite. Je me rappelle plus du tout laquelle c'est. Vous allez me dire, peut-être juste
on
après.
On vous dira.
Voilà. Mmh. Alors, j'ai retrouvé dans mes notes, c'est l'adagio de la sonate numéro 10 de Beethoven, c'est ça?
C'est ça,
messieurs? Ouais. Donc, Pierre Fouchneret au violon et Romain Descharmes dans le titre qu'on vient d'écouter. Et ils seront encore aux mêmes instruments ce soir dans un quartet complété par Lise Berthaud au violon alto et Christophe Morin au violoncelle. Le concert du soir à 20h30 à l'église Saint-Michel. Vous êtes dans le MAG, on parle de la 44e édition du festival Musique sur Ciel. Avec moi en studio aujourd'hui, Philippe Hersant, compositeur, Romain Descharmes, pianiste, et Pierre Fouchneret, violoniste. Messieurs Romain et Pierre, la composition, c'est quelque chose qui vous tente ?
Oh, c'est un métier qui est bien différent du nôtre, hein, qui appelle à des qualités qui c'est un travail, c'est un métier en fait. C'est pas juste une inspiration un peu divine comme ça.
Je vous conseille pas.
En plus, le seul compositeur français vivant ne vous conseille pas.
Regardez-le.
On va lui laisser ce titre magnifique.
Mais c'est vraiment difficile parce que bon, dans le rock, il y a des compositeurs, le R&B, il y en a. En musique classique, qu'est-ce qui est difficile? C'est d'imaginer vraiment la place de chaque instrument ou le mélange entre tout. Qu'est-ce qui est difficile en musique classique, du coup?
Je pense qu'il y a on peut s'amuser, ça nous arrive de s'amuser à faire, improviser, on va dire, quelques notes, et d'essayer de composer quelque part quelque chose qui est très éphémère et qui ne restera pas. Mais après, dans la musique dite classique, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de paramètres à respecter, mais si on veut construire une œuvre, c'est comme quand on construit un roman où ça se fait pas comme ça. C'est des heures, des jours et des semaines de travail pour réussir à mettre une idée en forme et que ça ressemble à quelque chose, parce que c'est pour ça que c'est un vrai métier en fait.
Je confirme, ce qui est plus difficile, c'est pas d'avoir une idée,
c'est de la développer, puis de faire
quelque chose qui tienne le coup dans la durée. C'est ça qui est le plus difficile en fait.
Et vous, par exemple, est-ce que vous avez, quel est le temps le plus long que vous avez mis à composer une œuvre? En année, en mois, en semaine, je sais pas.
C'est mon opéra, je pense. Bon, c'était aussi une des œuvres les plus longues, parce qu'il dure 1h15. Donc ça m'a pris 2-3 ans au moins.
Et en opéra, on compose pour combien d'instruments différents?
Là, il y a un grand orchestre, il y a pas de chœur, mais il y a 4 personnages, il y a donc 4 chanteurs, il y a un orchestre de 80 musiciens, et surtout, ça dure plus d'une heure et demie,
Ah oui.
Donc là, ça m'a pris du temps. Puis il y a le livret, dans l'opéra, c'est très très compliqué, parce qu'il y a aussi l'aspect construction théâtrale, C'est pas uniquement de la musique, c'est aussi du théâtre.
Et à quel moment vous vous dites, c'est bon, point final
Quand l'éditeur me dit, ça fait 15 jours que vous m'avez promis la partition. Alors, je la veux demain sur mon bureau.
Oui.
Ça aide.
Ça aide aussi à passer à autre chose. Ouais. Et pour composer, il faut trouver forcément l'équilibre entre l'harmonie, la mélodie. Est-ce qu'il y en a une qui prime plus que l'autre au départ?
Ça dépend vraiment des compositeurs. Moi, c'est plutôt l'harmonie avant la mélodie. En général, j'ai plutôt l'oreille harmonique. Voilà. La mélodie est importante, évidemment. Mais souvent, je pense d'abord à des accords et c'est la mélodie qui vient par-dessus. Mais ça, c'est vraiment, ça dépend complètement des gens.
Est-ce que vous avez déjà composé dans d'autres genres que, je vais dire, le classique? Je sais pas moi, en jazz, en folk.
Non, pas vraiment. J'ai écrit quelques musiques de films, moins contemporaine, entre guillemets, pour être et avoir, par exemple, un documentaire là qui a eu pas mal de succès.
C'est l'école en Auvergne, là.
Voilà, c'est ça. L'école en Auvergne. Bon, il n'y avait pas beaucoup de musique, 5 minutes, mais ça m'a fait plus de droits d'auteur que toutes les autres œuvres réunies. Mais non, sinon, j'ai pas tellement. J'écris une ou deux chansons quand j'étais petit, jeune. Voilà, mais enfin, je suis resté quand même dans le domaine de la musique classique et toujours pour des instruments. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout attiré par l'électronique. C'est vraiment acoustique.
Je sais que Romain Deschamps, par exemple, fait quelques incartades souvent dans des musiques du monde, jazz, latino, des choses comme ça.
Ah, vous avez vu ça?
Ouais, j'ai vu ça. Ça continue, ça?
Ah, bien sûr, ça continue.
Ouais.
Non, mais ça, c'est une autre partie de mes activités de pianiste. Je fais évidemment 90% de classique, entre guillemets encore. Mais oui, j'ai un groupe, j'ai des groupes de tango, donc ça c'est encore une autre musique, et des groupes un peu de musique du monde, avec des arrangements un peu salsa, comme vous dites, latino, avec un quintet. Ça change, c'est une autre façon de. C'est une autre. Ça reste de la musique, donc finalement c'est la même chose.
C'est vrai que la musique classique, on a toujours l'impression.
Ouais, mais c'est pas de la musique. Non, c'est de la musique. C'est juste de la musique et voilà, c'est juste une façon un peu différente de jouer, mais on prend le même plaisir. Hein.
Bien sûr, et forcément de passer de d'un genre à l'autre aussi doit vous nourrir.
Bien sûr.
Dans la manière de jouer, dans les synchros, les breaks, les.
Oui, parce qu'il y a eu des questions même juste rythmiques qui. Dans la salsa, par exemple, qu'il n'y a pas dans Mozart. Mais après, on peut écouter Mozart un peu différemment.
Différemment, du coup, ouais. On dit, ah, il avait quelques notes de salsa, quelques...
Voilà, ouais, c'est ça.
Peut-être, hein. Et toi, Pierre, ça t'arrive de jouer autre chose au violon?
Eh bien, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas.
Ah ouais.
Ça, c'est... Voilà. Moi, je suis incapable de faire autre chose que de la musique dite classique. Bon, après, c'est-à-dire que ça balaye tellement aussi de genre, déjà, de... Que c'est... Mais bon, voilà, ouais, le jazz,
pas,
le...
pas une musique classique.
Non, sûr, voilà, c'est ça, je... c'est ça.
Mais comment on l'appellera alors? Parce que très souvent j'entends ça, surtout de classiciens, excusez-moi d'utiliser ces termes-là, de dire pourquoi on parle de musique classique quand il s'agit de ce répertoire-là. Vous utiliseriez quel mot?
Non, parce que en fait on dit ça parce que c'est de la musique qui c'est toujours la frontière ténue entre le enfin qui devient malheureusement très limite entre la culture et le divertissement.
Oui.
Je pense que la musique dite classique, c'est de la musique qui ne s'appréhende pas à la première écoute. J'ai l'impression que d'être mélomane, c'est un travail. Et c'est pas il suffit pas de mettre un disque et de dire à quelqu'un tiens, écoute ça voilà, non, le plaisir ça va pas être voilà. On va être dans l'écoute, on va pas être juste dans entendre quelque chose. Mm-hmm. Donc c'est ça qu'on appelle, je crois, la musique classique de façon banale. Mm-hmm. Ce que me disait Amélie et Soraya hier, hein, qui sont la musique, c'est quelque chose qui enfin voilà, le fait d'écouter, c'est quelque chose qui s'apprend. Mm-hmm. Je crois que c'est vraiment pas quelque chose qui est naturel. Voilà. Enfin, si, c'est bien sûr naturel.
C'est naturel, mais il faut quand même accompagner l'oreille.
Voilà, c'est un travail, ouais. C'est un véritable travail.
Voilà. Et vous,
après, on peut aussi profiter de la musique sans forcément connaître, hein, parce que après, ça met la musique classique encore dans un autre univers, alors qu'on peut aussi l'écouter comme elle vient, en fait. Quand on écoute Amélie et Soraya, par exemple, c'est...
Mais qui c'est Amélie et Soraya?
Amélie et Soraya. Je crois qu'il y a un pari dans l'air, là. Je crois qu'il y a un pari dans l'air.
Non, mais voilà, ça fait deux, trois fois que vous parlez d'Amélie et Soraya.
C'est des pianistes et violonistes, c'est un groupe de piano-violon, et en fait, elles essayent justement de casser un peu les codes du classique.
Voilà, c'est ça vous êtes en train de le faire là d'ailleurs.
Voilà, exactement.
Mais il y a un autre mot idiot, c'est musique contemporaine, ça veut absolument rien dire. Elle n'est pas plus contemporaine que le rock ou Charles Aznavour.
C'est
absurde.
Bien sûr.
Mais voilà, c'est le problème des noms, des mots, des dénominations.
Exactement.
Oui. En dehors de cette musique dite donc classique, est-ce que vous écoutez autre chose? Philippe Hersant, par exemple.
Oui, bien sûr.
Quoi, quel genre?
Quand je recopie ma musique, j'écoute, je sais pas, les Pink Floyd. Non, je suis un peu retardataire. Je suis plus dans la musique que j'écoutais quand j'avais 20 ans. Mais j'écoute beaucoup d'autres musiques. Oui. Ouais. Toutes sortes de musiques, des musiques aussi ethniques. J'adore les musiques africaines, japonaises, sud-américaines. Enfin bon,
ouais.
C'est... vraiment très, très ouvert.
Romain, donc salsa, on est un peu...
Ah ouais, moi j'adore la guitare électrique. Donc, ouais. J'aimerais bien faire de la guitare électrique d'ailleurs. Donc, ACDC, les groupes un peu métal, j'aime bien.
Qui défonce. Et Pierre?
Oui, en dehors de la musique classique, j'écoute aussi Beethoven.
Et Amélie Soraya.
Amélie Soraya.
Mais le slam n'est pas loin chez Philippe Hersant. J'ai appris qu'il y a quelques années avec des détenus, vous avez mis des textes en musique.
Oui.
Ça a dû être une expérience assez...
Oui, qui se poursuit d'ailleurs.
Ah ouais?
Qui se poursuit à la centrale de Clairvaux.
De Clairvaux, oui.
Mmh. Une expérience formidable. D'ailleurs, je devais le faire un an et puis ça va faire la quatrième année.
Ouais.
Ce sont des ateliers d'écriture en fait qu'une dame a fait là-bas et elle m'a demandé d'écrire des musiques sur les textes des détenus et c'est une expérience forte. Difficile au début, mais... passionnante à la fin, à la longue.
Ils ont écouté la musique que vous avez composée
Oui, derrière. Alors souvent ils n'ont pas le droit de sortir, même si le concert est donné dans l'abbaye qui touche la prison. Mais
ouais.
Certains ont une permission, mais d'autres pas. Donc on va en fait en prison avec quelques chanteurs et puis on leur donnait un avant-goût du concert, de ce que ça va donner.
Ouais.
Et puis de toute façon, on filme le concert et et 15 jours, 3 semaines après, on le projette dans la prison devant les. Voilà, c'est toujours des moments.
Ça, c'est chouette, ça.
Très, très intéressant. Et très fort.
Ouais. Question que l'on pose rarement aux slameurs ou aux rappeurs, et pourtant, Que faire pour moderniser l'image de la musique, disons, classique? Je continue d'utiliser ce terme-là, Philippe Hersin.
C'est étrange parce que on a vraiment accès à la musique, à cette musique comme jamais on a eu par le passé, par la radio, les disques, la télévision, on passe pas beaucoup à la télévision, je sais pas pourquoi il y a un fossé qui s'est creusé, pas seulement avec la musique contemporaine, donc Germaine, mais même avec la musique plus ancienne, Beethoven, Brahms. C'est vrai que les gens finalement l'écoutent peu. C'est bien dommage, mais heureusement, il y a des orchestres qui font beaucoup d'efforts, qui ne jouent pas seulement dans les salles de concert, mais vont
sortent aussi.
Je pense qu'il faut vraiment aller à la conquête du public et aller vers le public. Mmh. Il y a beaucoup de petits festivals qui font ça aussi, qui apportent la musique dite classique dans l'église du village. Et alors les gens ont l'impression que vraiment c'est fait pour eux, parce que sinon si c'est joué dans des salles de concert, ils se disent c'est pas une musique pour moi, ça c'est pour voilà. Tandis que si vous venez et que vous leur jouez, moi j'ai même vu une œuvre de Messiaen, le Quatuor pour la fin du temps, qui est une œuvre avec une ovation, les gens étaient debout, quoi. Ouais. Ils avaient, je pense, certains d'entre eux jamais entendu de musique classique de leur vie. C'était, on allait au devant d'eux et ça c'est toujours payant.
Effectivement, oui, et on peut rajouter à ça que le concert est quand même un événement qui peut déclencher les passions, parce que c'est vrai que d'écouter de la musique par le biais de la télévision, du disque, d'internet, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup moins c'est beaucoup moins un déclencheur qu'un concert. Je le dis parce que pour les gens qui écoutent et qui se posent la question de savoir s'ils vont venir ce soir ou demain ou les jours d'après au festival, je pense que c'est important de se dire que s'ils veulent passer le pas, d'avoir accès à cette musique, il faut aller au concert, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est différent, parce qu'il y a aussi un impact quasi chimique, par ce qu'on peut percevoir, en dehors du son, ce qu'on peut voir chez le musicien, chimiquement, simplement.
Ouais, le fait de voir aussi les musiciens habités par,
exactement. Les musiciens. Le concert de Romain hier, c'était vraiment un excellent exemple, tellement il se donnait, mais attends.
Ouais.
Et
l'exemple du Quatuor pour la fin du temps de Messiaen, justement, je pense que c'est une œuvre que si on l'écoute en disque ou
dans son salon,
ça n'a rien à voir avec l'impact qu'on peut avoir en concert. Ouais. Et c'est vraiment universel, c'est de la musique universelle. Là, pour le coup, personne peut dire qu'il n'y a pas un impact très très fort.
Parce que l'émotion, de toute façon, on a une émotion.
C'est énorme et c'est unique.
Ouais. Donc, aller au concert.
Ouais, absolument.
Bon, messieurs, je vais vous lâcher, même si j'aurais bien voulu vous garder, mais je sais que vous devez remonter pour des répètes. Merci, messieurs, d'être venus dans notre studio de CFM. Je rappelle que vous serez à l'église Saint-Michel, donc ce soir à 20h30, en compagnie de Lise Berthaud, Christophe Morin, c'est de la musique de chambre. À 17h30, le flûtiste Georgia Brown se produit toujours à l'église Saint-Michel. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne représentation, et puis... à tout à l'heure, messieurs, bon festival.
Merci.
Le programme de musique sur ciel demain, lundi, concert impromptu à midi, Pétante, place de la Bride. Un rendez-vous gratuit ouvert à tous, inoffensif, tout au contraire. À 17h30, Philippe Hersin présente à nouveau ses œuvres pour cordes à l'église Saint-Michel. Et à 20h30, Nicolas Kruger au piano et Salomé Allaire, soprano, interpréteront plusieurs grands auteurs. Nicolas Kruger et Salomé Allaire, d'ailleurs, qui sont les invités du magazine de demain. Sur ce, bon dimanche, bel après-midi et bonne continuation à l'écoute des programmes de CFM.